T'es coincé où?
C'est
quoi? On a plus de
10
minutes.
Ouais,
alors. Hop, hop, hop. Mais il est fou, ces pieds, là, sans les
collègues. Ils ont aujourd'hui, ils font ça beaucoup.
Merde, Anaïk! On les a pas couverts! Ah putain, ils sont pas protégés! Va chercher le matériel! Vous êtes pas au courant, c'est les normes ISO 9003. C'est une salle de décontamination avant le spectacle. On peut pas vous laisser comme ça. Si on respecte pas le protocole, ça va pas. Démonstration!
Donc on va proposer de Charlotte et des pieds.
Donc la Charlotte,
pas très compliqué. Donc voilà, donc hop, 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 hop.
Les pieds, très simple, les pieds. Allez, c'est parti, tout le monde en met. Allez, hop, on y va. Hop, hop. Allez, Charlotte.
Allez, on se dépêche.
Allez.
On monte, on monte.
Allez, 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 Anaïk. Non, mais on les met, faut les mettre.
Ah, bah, vous nous signez une décharge. Hein.
Vous avez rendez-vous à prendre, est-ce que vous prenez ou pas?
Ça va nous tomber dessus. Hein.
Arrête, on n'y arrivera jamais. Alexia, laisse là la tâche, là. Personne l'a vu.
Je t'ai dit que j'aime le travail bien fait. Je suis perfectionniste. Je suis comme ça depuis que je suis toute petite. Un jour,
je suis rentrée chez moi. J'ai dit à ma mère, j'ai 20 sur 20. Et là, elle m'a répondu. Bon, c'était ma chef, hein, à l'époque. Elle m'a répondu « Comment ça, tu n'as pas eu 21 sur 20 ?» Alors, j'ai pas compris tout de suite l'effet que ça pouvait faire. Et après, j'ai commencé à devenir une note. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très dangereux. Heureusement, j'en suis réchappée. Mais je peux vous dire que ça va revenir après, mais c'est hyper dangereux.
En tout cas, on s'en fout, tu fais pas chez toi le ménage, là, regarde.
Et quoi, qu'est-ce que tu veux? Que ce soit l'équipe de ce soir qui le fasse, c'est ça?
Oui, bon. Avant, hein, on était 5 pour faire l'étage, ok, on avait une semaine. Maintenant, on n'est plus que 2, on a plus que 3 jours.
Et alors, on l'a signé, la démarche qualité?
Ouais, moi, j'ai rien signé, là. T'as signé un truc, toi? Moi, j'ai rien signé, là.
Écoute, si on signe pas, de toute façon, l'accréditation, on l'aura pas et on perdra tout notre boulot. C'est ça que tu veux?
Ah ouais, non, mais ça se voit. Ça se voit que t'es là que depuis 6 mois. Ils nous ont déjà fait le plomb il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on a bossé comme des tarés, là. On a bossé comme des folles, là. Il y en a plein qui sont partis en arrêt maladie. Regarde dans quelle est ta tête, là. T'es morte vivante, là. T'es toute malade, tu viens bosser quand même, forcément. Ils ont supprimé des postes, là. Ils ont supprimé plein de postes. On a bossé comme des folles. À quel prix on l'a eu, l'accréditation? Puis quoi, avant on faisait de la merde? Hein? Avant, t'en faisais pas toi de la qualité avant?
Ben si. Avant, moi les malades, je passais du temps avec eux, à discuter avec eux. Regarde ce soir, je leur ai même pas dit bonsoir.
Bonsoir?
Bonsoir. Je les ai même engueulés.
Bon, moi, je vois qu'une seule solution. Tu l'as vu, le film, L'Enzéro? On s'arrête. Tout ensemble, on s'arrête, on s'assoit, puis on réfléchit.
Tu sors ça d'où?
Je peux pas te le dire.
Hein?
Je peux pas te le dire. De prison.
Qu'est-ce que ça y est fait?
Un DEFA. Un diplôme d'État aux fonctions d'animatrice. Voilà, je t'ai embauchée comme animatrice culturelle au centre pénitentiaire des femmes. Et puis, je m'étais toujours dit que avec mon travail, j'arrivais pas à contrebalancer le niveau d'injustice que je constatais tous les jours, je me barrerais. Voilà, ce jour est arrivé. Me voilà.
Ah, moi aussi, j'ai eu quelques soucis. J'avais fait un BTS de commerce international où j'ai passé 2 ans à apprendre les droits de douane. Et au bout de 2 ans, manque de bol, ils les ont supprimés. Il a fallu que ça tombe sur moi. Alors après, j'ai fait un diplôme universitaire de second cycle à Strasbourg. Et là, j'ai eu essentiellement des cours diplomatiques. Alors, il s'agissait de savoir comment disposer le pain, bien le couper, sur la table, tout le savoir être diplomatique. Ça ne m'a pas beaucoup plu non plus. Alors après, j'ai fait un DESS, tenez-vous bien, responsable de projet, formation, développement. Alors là, ça consistait à penser des formations pour adapter les personnes aux besoins du marché du travail. Chouette, non? Alors, ça ne m'a pas plu non plus. Alors, j'ai été au ministère des Affaires étrangères et là, je devais emmener des pauvres des banlieues, de nos banlieues, découvrir qu'il y avait plus pauvres qu'eux, dans des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et c'était, si vous voulez, ceux qui étaient en Afrique n'avaient pas, par contre, le droit de venir voir ici comment ça se passait. Donc c'était des échanges faussement réciproques. Donc j'ai pas trouvé ça tellement anticapitaliste non plus. Donc j'ai tout plaqué.
Non, mais vachement compétente quand même.
Non. On n'est pas compétente, on a des qualifications. C'est tout le contraire des compétences. Les qualifications, c'est ce que veut casser le MEDEF pour tuer les syndicats. Les qualifications, c'est le savoir du métier, c'est les expériences, c'est la transmission quand on est au boulot, tu comprends? Les compétences, c'est savoir changer rapidement, s'adapter, anticiper même le changement, savoir obéir, quoi. C'est ça qu'on attend des compétences. Et alors moi, pour ça, mais alors je suis nulle, mais alors nulle.
Ah, c'est pour ça qu'on est éducatrice populaire, c'est parce qu'on est incompétente, en fait.
C'est ça.
Ben, moi, ça a commencé à l'école. Je sais pas toi, mais moi, ça a commencé à l'école. Alors, moi, j'ai tout raté. J'ai pas eu mon brevet des collèges. J'ai passé mon bac 2 fois, mais je l'ai jamais eu. Même en candidat libre, je l'ai pas eu. Moi, j'ai fait de la résistance passive. Voilà, je me suis appliquée à rater tous les diplômes d'éducation nationale. Voilà, je supporte pas l'évaluation.
Moi, la seule chose que j'ai apprise à l'école, c'est la peur du jugement, de la faute. Je me rappelle, c'était en cours d'allemand, comme par hasard. On était tiré au sort, celui qui devait réciter sa leçon. Puis alors, ce jour-là, c'est le caïd de notre groupe qui se fait tirer au sort. Comme c'était le caïd, au départ, on n'avait pas trop pitié. Mais finalement, quand on l'a vu, à pas lents, aller vers le centre de la classe, puis lever le bras comme ça, et devenir blanc, vert, puis blanc, puis s'écrouler, évanoui, on était mal. Et là, je me suis dit, jamais, jamais je me laisserai humilier comme ça. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue mais insolente. Insolente. Et alors, j'ouvre une parenthèse. Moi, j'ai découvert ça à 13 ans. Mais il y en a maintenant, c'est à 3 ans. Petit comme ça, en maternelle. Les micro-compétences qu'ils évaluent. Et puis, c'est pas genre en cours d'acquisition, hein, c'est oui ou non. Et puis, la date précise, le jour même. Limite, si c'est pas l'heure, quoi. Et
Et même les États aujourd'hui, ils sont notés. Il y a des agences de notation internationale pour ranger les États, pour voir s'ils se comportent bien. Partout.
Ça me rappelle mon prof de maths complètement psychopathe. En fait, je sais pas, sûrement que vous en avez eu des profs de maths comme ça ou d'autres matières. Ils rendaient les copies par ordre décroissant. Ça durait des heures. Ils commençaient par le 19, finissaient par le 3. Ils faisaient un petit commentaire à chaque truc. Bon, sadique.
Moi, j'étais plutôt dans le groupe des moyens. J'en peux mieux faire. C'est pour ça que le jour où j'ai annoncé ma première envie d'orientation à ma mère, ça a été tout un poème. Je lui ai dit, je veux être l'AD. Palefrenier, quoi, s'occuper des chevaux. Et là, ma mère a eu toutes ces lumières qui se sont allumées en même temps. Surtout ne rien dire, rester calme, beaucoup de sang-froid. Ah bon ? Oh donc, mais tu as le temps. Tu sais, tu peux encore étudier un petit peu, comme ça tu auras plus de choix. Prends ton temps. Te précipite pas. Faut vous dire qu'à l'époque, l'école, pour moi, c'était un décor. J'étais devenue cheval. Je hennissais en classe. Vous voulez que je vous montre ? Mais je bottais aussi. Je bottais les garçons dans la cour d'école. Je galopais, tout ça. Je sautais des obstacles. J'avais dressé la moitié de l'école à faire pareil. J'étais un peu animatrice déjà. Et...
T'as eu un prof à un moment
déjà ?
Ouais. Non. Non, c'était comme un signal, tu sais, le NC.
Ah, c'est ça, me semblait bien. Alors, j'ai développé un petit peu cette stratégie, c'est devenu un peu une sorte d'allergie. En fait, dès que je repérais une sorte d'abus d'autorité, hop, je hennissais. Ce qui fait que tout le monde était un peu au courant. Ça avait un certain retentissement. Après, j'ai fait un deuxième vœu. J'ai voulu faire Sciences Po. Et là, c'est mon prof de Sciences Éco qui m'a dit, écoute, toi et Sciences Po, je pense ça va pas le faire. Alors, vous allez me dire, quel rapport entre le crottin et Sciences Po ? Aucun, sauf que les deux, ça me bottait.
Moi, c'était les cochons. Alors, moi, j'ai fait un stage professionnel. Je pense que vous avez dû en faire. C'est très énervant, ces lumières. On ne vous voit pas du tout et on aimerait bien vous voir. Hein. Je ne sais pas ce que t'en penses.
Bah, moi, je suis pareil, oui.
Ouais. On peut pas avoir un petit peu de lumière pour voir un petit peu les gens ? C'est possible ? Ou pas du tout ?
Ouais, cool.
Ah, ça change tout !
C'est mieux. Donc, les cochons. Au lycée, on fait un stage professionnel. Qui dure, je ne sais plus, 2 semaines, et on va découvrir le monde du travail, en seconde. Donc moi, je m'étais dit, oh, bah, moi, je vais aller dans l'école de mon village, je connais bien l'institut, tout ça, ça se passera bien pendant une semaine, je reste tranquille, au chaud près des radiateurs. Et puis, mon père m'a dit, bah non, comme c'est un stage en milieu professionnel, t'as qu'à aller à l'abattoir, comme ça, tu verras bien ce que c'est que le monde du travail, tu vois. Donc j'ai été à la Coperne, à Montfort. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un abattoir. C'est assez impressionnant, en fait. Hein. Donc, j'ai découvert la chaîne. Donc, c'est un genre de tapis roulant énorme. Donc, tout en haut de la chaîne, il y a un gars qui pose des électrodes sur des coches qui arrivent comme ça sur le tapis roulant. Donc, je fais... Après, tombe sur le tapis roulant. Elles descendent comme ça et elles arrivent au poste du seigneur. Là, il y a le seigneur. Toute la journée, ils tranchent des gorges. Vous imaginez un peu le boulot. Donc, dans la direction, ils se sont dit, ils ont réfléchi, ils ont consulté des psychologues et tout ça. Ils leur ont dit, il ne faut pas que le mec qui saigne toute la journée, il reste à ce même poste tout le temps. C'est dangereux.
Je pourrais sortir dans la rue et égorger tout le monde, par réflexe. Donc, ils intervertissent les électrodes et le couteau. C'est... Voilà, donc la chaîne descend. Tous les 15 jours, ils sont... Donc voilà la chaîne, bon, ensuite la cuisson, le découpage, l'emballage, enfin, vous voyez bien le bazar. Puis j'ai découvert un autre truc, la boyauderie. La boyauderie, c'est l'endroit où on vide les boyaux de leurs excréments. Donc c'est pareil, une chaîne d'eau, comme ça, et il n'y a que des femmes qui travaillent là-dedans. Parce qu'elles ont des petits doigts, et du coup elles peuvent bien bien vider les boyaux. Donc elles sont tout à part, elles ont investi à part pour des raisons d'asepsie. Elles sont toujours à part. Et voilà, elles ont une odeur à part. Voilà, donc, quand je suis sortie de ce stage, j'ai dit, d'accord, bah, jamais je travaillerai dans l'agroalimentaire. Bon, pour autant, je ne me suis pas mise à travailler à l'école.
J'ai dit, pas ce métier-là. Impossible.
Moi, j'ai fait un stage en Écosse, dans une usine de laminage. C'est là que j'ai découvert les cols blancs d'un côté, les cols bleus de l'autre. Les cols blancs qui regardent les autres travailler, qui pensent leur travail. Moi, j'étais dans l'école blanche, parce qu'avec mon BTS de commerce international, il fallait que je fasse un stage. Alors, j'avais une mission hautement importante. Il fallait que j'apprécie la part du marché de l'acier mondial que représentait la petite société écossaise RB Tennant Ltd. Alors, j'ai commencé. 0,0. Quand je suis arrivée après 2-0 après la virgule, j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est con ce que tu fais ?» Ça m'a tellement énervée que j'ai commencé un mémoire sur le syndicalisme. Et je me suis dit « Ma petite, va falloir que tu trouves un travail qui ait du sens. »
Parce que tu trouves vraiment que ce qu'on fait, ça a du sens.
Tu crois pas si bien dire. Management, il y a une double source étymologique, commune entre nous et les managers, même si on n'a pas le même salaire. Une première source étymologique du mot management, c'est manegiare, les menottes, manipuler, manœuvrer. Et puis il y a une deuxième source, faire vivre les gens en bonne intelligence. Et tu vois notre mission ? C'est faire triompher les ménagères sur les managers.
Yeah. Ça me rappelle la blague du manager, tu la connais ?
Aïe. Tournez pas ça.
Allez. Bon, on va vous la faire. On ne sait pas raconter des blagues, mais on va le faire quand même. Alors donc, vous êtes prévenus, c'est un défi. Ça, c'est une montgolfière. Moi, je suis manager. Je suis dans la montgolfière et j'aperçois quelqu'un au sol. Je suis complètement perdue, j'ai un rendez-vous, je suis super à la bourre. Donc là, j'interpelle la personne en bas. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Je suis complètement perdue.
Oui, bien sûr.
Est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que je me trouve?
Parfaitement, vous vous trouvez à environ 10 mètres sol, dans la nacelle d'un ballon à air chaud, et précisément à 49 degrés 26 minutes 13 secondes nord. Et 27 degrés, 55 minutes, 13 secondes, est.
Vous seriez pas ingénieur par hasard?
Si, comment vous le savez?
Bah parce que tout ce que vous m'avez dit semble techniquement parfaitement vrai, mais ça m'a carrément pas aidé. Je sais toujours pas où je me trouve, là. Voilà, puis pire, vous m'avez fait perdre un temps précieux, là.
Et vous seriez pas top manager par hasard?
Bah si, comment vous le savez?
Premièrement, vous savez ni d'où vous venez, ni où vous allez. Deuxièmement, vous faites des promesses sans avoir aucune idée de comment les tenir et vous comptez sur ceux d'en dessous pour les réaliser. Troisièmement, vous êtes arrivé là où vous êtes en brassant et en chauffant une énorme quantité d'air. Et quatrièmement, entre le début de notre rencontre et maintenant, vous avez, votre situation n'a pas changé, mais c'est maintenant moi qui en suis tenue responsable à vos yeux.
respirez par le ventre. Détendez-vous. On va parler d'un gros mot. Le capitalisme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des mots comme ça qu'on peut plus dire. Capitalisme, on n'a plus le droit de le dire. Alors, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, j'étais chez des amis, je mangeais chez des amis, puis on discutait des cadences infernales, hein, des objectifs inatteignables, enfin voilà, du boulot en général et tout ça. Et puis, à un moment, j'ai lâché le mot. Alors, tout le monde m'a regardé avec des yeux pas possibles, genre, putain, on a invité là, du train gauche ferroviaire à notre table, on ne savait pas. Vous avez remarqué qu'il y a des mots comme ça qu'on ne peut plus dire ? On les utilise plus. Par exemple, on dit de moins en moins souvent usager. On dit plutôt client. On dit plus femme de ménage. Ouais, on dit même plus technicienne de surface.
Ils sont pas à la base.
On dit opératrice de propreté.
On dit plus la SNCF. On dit SNCF.
Ah, pareil.
Ça change tout.
Vous en avez d'autres exemples des mots qu'on vous a volés
En Belgique, on dit plus la poste, on dit B-poste maintenant, B-poste. Ça a changé il y a quelques temps, en fait. Enfin, c'est dans la dynamique.
Nous, on dit banque postale.
Ouais.
On parle plus d'exploiteurs d'exploiteurs, on parle de collaborateurs.
Ouais.
Oui. On dit plus gardien de la paix, on dit force de l'ordre.
On dit plus rock'n'roll, on dit musique amplifiée.
Ouais. On dit plus un socialiste, on dit une personne de petits résultats.
Merci.
C'est pour votre bien.
On dit plus un quart de policier, on dit un policier entier.
Ok, bon. Donc nous, ce soir, on va l'utiliser, ce mot. Hein. On a tranché. Voilà, on va dire capitalisme, on va en parler même, on va... On se met d'accord sur...
Moi, je veux bien qu'on l'utilise, mais à ce moment-là, on se donne une définition pour ce soir. Hein. Le capitalisme est un mode de production caractérisé par la recherche d'accumulation illimitée de profits.
Donc
tous ceux qui disent il faut moraliser le capitalisme, et tout ça, c'est pas la peine.
Donc, à votre avis, comment fait-il ses profits ?
Ah !
Petit quiz. Est-ce que vous avez une idée de comment le capitalisme fait ses profits ?
En exploitant les travailleurs.
Yeah ! D'autres idées ?
Réduisant la masse salariale.
Ouais.
En exploitant les ressources naturelles.
Ouais.
Bah oui.
Attends, mais attends, c'est parce qu'elle a pas le temps d'écrire. Ah, doucement,
ah, c'est bon,
elle
va se détendre.
Bon, elle va
abîmer,
mon frère. D'autres idées ?
En faisant croire qu'il arrange la pollution qu'il a lui-même produite. C'est-à-dire en créant des industries soi-disant écologiques
qui
vont dépolluer cette pollution que lui-même a produite.
Comment on pourrait appeler ça ?
Le truc qui a intérêt à polluer, c'est développement durable.
Développement durable.
En inventant.
Ouais.
C'est génial, ils ont une imagination à chaque fois.
Prends du capital avec du capital.
Hey.
Suisse, l'exercice. Tout le paperboard était rempli.
Et ils étaient bouchés.
Ils ont dit, non, mais on est en Suisse, on est un peu au courant, là, sur le capitalisme.
Faire de l'argent avec de l'argent. Aujourd'hui,
4000 milliards de dollars
sont échangés par jour, grâce à la libéralisation des marchés des capitaux. La durée moyenne d'une transaction est de 2 jours. Je ne sais pas si vous avez essayé de construire une usine en 2 jours, mais ça limite un peu. Est-ce qu'on a comme...
Est-ce qu'on peut mettre quand même en vendant des produits et des services, parce que ça leur arrive quand même aussi.
On peut voir la guerre.
Ah. Et en nation la paix.
Le SAV.
À propos de SAV, en limitant la durée de fonctionnement des produits qu'ils vendent.
Ah oui. Donc vente de produits et services à très court terme.
Même produits jetables.
Oui, oui, bah bien sûr. Vente et produits de produits et services jetables.
Super, carrément.
On partit trop au gouvernement. Ah.
Dumping social, allez, c'est parti. Attendez, attendez.
C'est quoi dumping social?
C'est dans le cas de l'utilisation de la main d'œuvre payée pour le bal à l'étranger, ce qui fait que ça va baisser le coût aussi du travail.
Même en France.
Ou même sur place.
Même en France avec les autres franches.
Ça se fait pas mal.
Ouais, les autres franches.
Ou les émigrés.
Le crédit.
Le crédit, bien sûr. Si vous voulez qu'ils achètent les produits et tout ça, faut quand même leur faire crédit, non? Le crédit aux ménages et aux États. Comme ça, ça crée de la dette. Du tiers-monde, par exemple.
Super. Développement et culture industrielle par la télé.
Oh, le rôle de la télé.
Créant de fausses nécessités.
Ouais. Inventer des besoins.
En privatisant les services publics.
Ah, je me disais, tiens, c'est marrant, mais il tombe pas celui-là.
Il y en a déjà plus.
En commercialisant la culture.
Ah. Ou alors aussi on peut dire en marchandisant des choses qui sont pas encore, qui n'étaient pas, qui échappaient à la marchandise jusque-là. Pour ceux qui ont été voir la conférence sur l'eau, on voit bien que l'eau n'a pas toujours été une marchandise. Et comme maintenant il faut payer pour pisser, par exemple, à Paris, ça peut paraître assez surprenant. À Rennes aussi. Ouais.
La privatisation des besoins.
D'exploitation des travailleurs, mais on pense souvent au coût du travail. Et on pense moins facilement à l'organisation du travail. Et l'organisation du travail...
Nous, on pense que c'est là que les bactéries du management attaquent. Donc, avant, c'était... exploiter plus pour gagner plus. Maintenant, c'est exploiter mieux pour gagner plus. Vous voyez la subtilité?
Ça change tout. Et si le management attaque là, le management, il vient d'où? C'est facile.
Ouais.
Trop facile. Et quand? La première fois?
Ouais. C'est quand, votre avis?
Ah, ils sont bons.
1870-1880.
Donc c'est aux États-Unis, dans un secteur, les secteurs des grandes, de grandes, grandes entreprises, nouveaux secteurs, télécommunications, transport, distribution. L'idée, c'est de pouvoir standardiser le fonctionnement de l'entreprise et de pouvoir prévoir le comportement des travailleurs. Et c'est à ce moment-là que s'invente déjà le management. Alors là, vous êtes une salle exceptionnelle, mais la plupart des gens nous disent les années 60. 1960. Or, ça fait un moment que ça travaille. Qu'est-ce que ça transforme, le management ? Alors, en fait, la grande transformation, c'est qu'avant, on avait des propriétaires des moyens de production. Et puis, on avait des travailleurs.
Je sais jamais si c'est à gauche ou à droite. Quelqu'un sait ou quoi ?
Bon. À cette époque-là, même s'il y a des contre-maîtres, les travailleurs, ils maîtrisent l'ensemble de leur travail. Les contremaîtres sont là, mais ils ne s'immiscent pas dans la réalisation du travail. À cette époque-là, ils sont payés à la production. Et vous voyez que entre les travailleurs et les propriétaires des moyens de production, le rapport est un rapport de face à face. C'est toute l'époque du mouvement ouvrier, donc du rapport de force. Et ce que vont changer les managers en arrivant, donc là c'était le 19e siècle, au 20e siècle, on a toujours les propriétaires des moyens de production. On a toujours des travailleurs, mais entre les deux, il y a une nouvelle caste qui s'appelle les managers, qui sont là pour sauver le profit des entreprises, pour garder son niveau et même accroître son niveau de profitabilité. Leur symbole, c'est le chronomètre.
Ça va.
C'est leur...
Ah, ça va, mais en vrai, tu m'embêtes, Alexia.
Leur étalon, c'est le chronomètre. Pourquoi ? Parce que c'est les premiers qui vont s'immiscer dans ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire la manière dont on organise le travail, le sens du travail. Eux, ils visent à contrôler les relations internes et externes de l'entreprise. Ils vont faire en sorte, en chronométrant les tâches de chaque travailleur, de faire passer les salariés d'un salaire à la production à un salaire à la productivité. Et grâce à eux, on va avoir, entre les travailleurs et les propriétaires des moyens de production, maintenant un écran de fumée. Et les travailleurs ne seront plus des travailleurs, mais seront des employés, des opérateurs. Avant, ils étaient travailleurs, après, ils sont employés. Et entre les deux, vous voyez que c'est beaucoup moins évident. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui nous disent actuellement « Je ne sais pas qui est le responsable de mon entreprise. » Il y a plein de gens qui disent « On ne sait pas, je ne connais pas le nom du directeur de l'entreprise. » Par contre, ils connaissent ceux des managers. Et ils vont tellement bien s'immiscer dans l'organisation du travail que par exemple aujourd'hui dans des plateformes d'appels téléphoniques, même les gens qui appellent d'autres au téléphone ont des scripts à respecter scrupuleusement, ils n'ont plus aucune marge de manœuvre dans l'exercice de leur travail. C'est ça qui a changé profondément l'arrivée des managers. Alors pour comprendre comment ça s'est rendu possible, il faut remonter aux trois sources du management que vous connaissez. En fait, les managers, ils ne se contentent pas de vouloir contrôler l'ensemble de l'entreprise. Ils veulent absolument que les logiques gestionnaires contaminent l'ensemble de la société. L'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'écart entre la manière dont la société fonctionne et ce que l'entreprise a besoin en termes de comportement adapté au profit. Illustration.
Laurence Parisot annonçait sur France Inter en août 2008 « La précarité est une nouvelle loi de la nature humaine ». Tout comme elle est présente dans le mariage, dans les relations amicales, elle l'est dans le travail, c'est tout naturel. La police. Communiqué syndical. Les policiers dénoncent la politique du chiffre. Tant que le gouvernement nous imposera des quotas d'interpellation et nous mettra la pression pour une politique du chiffre aveugle, on ne pourra pas exercer avec discernement. L'école. Extrait de l'épreuve du baccalauréat de gestion 2009 de l'Académie d'Amiens. Nathalie Cerisier est employée en qualité de commerciale salariée dans l'entreprise Sectora. Elle prospecte les grandes surfaces. Cette salariée n'atteint plus les objectifs de vente fixés par son manager. Elle a reconnu qu'elle rencontrait des difficultés pour convaincre les clients d'acheter. Lors de l'entretien d'évaluation, une formation lui a été proposée. Le bilan réalisé le 16 mai 2009 est négatif. Elle reçoit sa lettre de licenciement et conteste la décision prise à son encontre. Elle menace de porter l'affaire devant le tribunal. Le directeur de Sectora vous demande conseil. Intitulé. Vous formulerez le problème juridique qui se pose à la société. Vous formulerez le raisonnement juridique qui devra conduire l'employeur si l'affaire devait être portée devant le tribunal. Montrez en quoi la procédure de licenciement permet de garantir les droits du salarié.
Vous trouvez ça normal qu'on demande à des élèves de défendre exclusivement le point de vue des patrons? Et puis ça continue. Moi, j'ai la MAF, là, qui m'écrit « Prenez goût à la performance !» Et puis, tout récemment, ils viennent de réussir quand même à faire passer la loi instaurant la rémunération en fonction de la performance dans les trois fonctions publiques. Donc, vous voyez que ça fait du chemin et qu'effectivement, ils arrivent à faire pénétrer ces logiques-là dans l'ensemble de la société. Et donc, pour comprendre comment ils ont réussi ce défi, on pense qu'il faut remonter à ces fameuses trois sources. Parce qu'on fait une hypothèse qui est qu'en fait, on a un scoop. Il n'y a rien de neuf depuis ces trois sources-là. Enfin, rien de neuf. Le seul bémol, c'est en fait l'application de ces trois sources au service public. Bah, c'est ça la nouveauté. Sinon, tout est là. Donc, première mamelle. Taylor, c'est un chic type. Il ne savait pas comment se mettre au service du capitalisme. Donc, c'est le premier qui va s'intéresser à l'organisation du travail. Il veut écrire une science du travail. Il veut définir le one best way d'accomplir le travail. Il veut optimiser les tâches, les gestes et les outils. L'obsession de Taylor, c'est ça. La flânerie systématique des travailleurs. Taylor, il va se mettre à observer les travailleurs et il va chronométrer toutes leurs tâches. Il va décomposer l'ensemble de leurs tâches pour les recomposer en éliminant toutes les tâches qui lui paraissent inutiles. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, il y a des ouvrières en Asie du Sud-Est qui sont, tenez-vous bien, évaluées au 10 millième de seconde. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça donne.
Mais il y a une seconde.
Déjà.
Deux, un, deux. Mais les millièmes de seconde, ça fait quoi en fait?
La deuxième mamelle, c'est Ford. Alors Ford, il a été stimulé par Taylor. Ford, il va plus loin. En fait, il a trois cordes à son arc. Premièrement, Ford, il veut casser les syndicats. À l'époque, ça s'appelle des sociétés de résistance. Et c'est lui qui va développer l'automation. Il veut absolument empêcher toute forme d'action collective dans l'entreprise. Sa deuxième idée, c'est que pour lui, Taylor n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire que Taylor, lui, décomposait et il recomposait les tâches, mais les travailleurs continuaient à faire toutes les tâches. Donc Ford va aller beaucoup plus loin. Lui, il va décomposer les tâches, mais il va faire à chaque personne un seul type de tâche. Et vous voyez que quand une tâche est simplifiée, elle est beaucoup plus facile à contrôler. Mais Ford va vachement plus loin, c'est un visionnaire. Il invente le mode de vie Ford, le citoyen-travailleur-consommateur. Tous les gens qui se conformeront au mode de vie Ford auront double paye. Le mode de vie Ford, il est écrit, et Ford y va jusqu'à payer des enquêteurs pour aller voir dans les foyers comment ils se comportent et vérifier qu'ils sont bien en adéquation avec le mode de vie Ford. Pas mal, non? Et puis on a la troisième mamelle. Alors, on nous raconte que la troisième mamelle est en rupture avec les deux premières. C'est l'école des relations humaines de Mayo. Et nous, on voudrait vous convaincre qu'on ne voit pas très bien la différence. On ne voit pas bien la rupture. On voit bien la différence, mais on ne voit pas la rupture. L'école des relations humaines, elle naît dans les années 20, en même temps que la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie. L'idée de l'école des relations humaines, c'est de toucher à ce que Ford et Taylor ont laissé de côté pour l'instant, c'est la subjectivité au travail. Notre motivation, notre implication au travail, tout ce que les gens, les travailleurs gardent pour eux-mêmes, aller voir si là-dedans, il n'y aurait pas aussi des sources de productivité. Et là où on ne voit pas de rupture, c'est que ces trois courants-là, ils ont la même intention. C'est effectivement de chercher toutes les sources de productivité. Mais eux vont s'attacher à des choses qui sont extrêmement précieuses et intimes, ces questions de la motivation et de la subjectivité au travail.
On vous montre comment... Alors, Mayo, il a fait une expérience à la Western Electric. Ça vous dit quelque chose ? La Western Electric, c'était une usine de fabrication de postes téléphoniques. Il a fait cette expérience-là dans les années 20 aux États-Unis. Donc en fait, il y avait une chaîne de fabrication. Il a, dans une pièce à part, son lieu d'expérimentation, isolé deux ouvrières amies. Genre... T for two and two for tea. Et puis, donc dans cette pièce, donc elle fabriquait les postes téléphoniques, il a augmenté la température, baissé la température, il a augmenté la lumière, puis baissé la lumière, genre... Changes in the night. Na, 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 na. Et donc, voilà, donc il a augmenté aussi le nombre de pauses, il a baissé le nombre de pauses, il a rajouté un jour chômé dans la semaine, il l'a enlevé, voilà. Donc, au bout de quelques mois de ce régime, conclusion, le niveau de productivité ne cesse d'augmenter sur le poste où travaillent ces deux ouvrières. Ça veut dire que les conditions de travail... même si on leur augmente les pauses, on leur baisse les pauses, on rajoute un jour chômé, alors non seulement le niveau de productivité augmente, mais elle-même se le fixe. Pire, Mayo observe que sur le restant de la chaîne, donc sur là où il y a tous les ouvriers qui ne sont pas soumis à l'expérimentation, le niveau de productivité ne cesse d'augmenter. Conclusion, ils disent, en gros, c'est pas les conditions de travail en fait qui jouent, c'est parce qu'on est venu dans cette usine, on s'est intéressé aux ouvriers. On a pris en compte leur métier, on les a fait parler, on a sympathisé, on a tenu compte qu'ils étaient amis, on les a mis ensemble.
Tu vois, en fait, c'était pas les conditions de travail. C'était parce qu'on s'intéressait à eux. Puis, du coup, les gens, ils...
Surtout à leur profil.
Ouais, enfin... Alors, mesdames et messieurs, le management est une science. Il s'enseigne à la fac. Depuis les années 60, il est transmis dans les colloques. Voilà, donc, leçon du jour. Sortez vos blocs et vos crayons. Définition du management participatif. Le management participatif est un mode d'animation et de conduite des individus et des équipes qui suscite leur engagement et leur contribution à l'innovation permanente et au progrès des performances de l'entreprise. Observation d'un outil du management participatif, la démarche qualité. Alors la démarche qualité est née avec son inventeur début du XXe siècle. Louis-Édouard Deming est né aux États-Unis en 1900. Il a très vite migré au Japon, où il a fait carrière. Hein. Sa méthode a inspiré le toyotisme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un peu connu. Donc c'est assez simple, hein, la démarche qualité, en fait. Hein. Ça prône, ça vend une idée très humaniste, très... Comment dire ? C'est de dire, les gens dans la société subissent des violences. Essayons de travailler sur cette violence au sein de l'entreprise pour la faire baisser dans le restant de la société. Donc, c'est instaurer la démocratie dans l'entreprise. Hein. C'est ce que prône Maillot, c'est ce que vend Deming, pardon, pas Maillot. Donc il s'entreprend à faire ça. Donc, il fabrique pour ça des cercles qualité. Hein. En fait, l'idée des cercles qualité, c'est la connaissance, hein, c'est la coopération, c'est des lieux où viennent des ouvriers, des cadres. Parler de leur métier dans toute liberté d'expression, hein, c'est vraiment un lieu de...
Voilà, connaissance, connaissance, contrôle, ouais.
Non, il y a des cercles qualité partout, dans toutes les entreprises de France, c'est bien connu. Par exemple, la qualité dans les entreprises, quand c'est arrivé, c'était une révolution. Par exemple, mon père, il raconte que quand il travaillait chez Ouverture, il dit, quand la qualité est arrivée chez Ouverture, il y avait des gens qui bossaient sur des grosses presses comme ça. Quand les presses se rabattaient, ils avaient des élastiques accrochés aux bras. Ils avaient les bras qui partaient en arrière. La démarche qualité, qu'est-ce que ça a fait? Ça a mis les systèmes de sécurité sur les machines et plus sur les humains. C'était révolutionnaire. Et puis bon, c'était ça, c'était le confort du poste de travail, mais c'était aussi prendre en compte l'humain, lui permettre de parler de son métier, lui permettre d'entrer dans ses cercles qualité. Ce sont vraiment des lieux d'expression libre. Clairement, ça pourrait très facilement se substituer au syndicalisme.
Bien sûr, mais t'es complètement faux.
Non,
substituer au syndicalisme, plus
pas du tout.
Plus de syndicats.
Je vais vous expliquer. La démarche qualité, comment ça marche? Je peux avoir une petite explication au tableau. C'est plus simple. Après, on comprend mieux parce que c'est très, très, très simple. Ça repose sur des principes très simples. Oui, sur des processus. Donc, sur un processus de pilotage, hein, sur un processus de réalisation et un processus support. C'est l'entreprise, hein. Donc, c'est assez simple. Deming, il a pensé à quelque chose. Il dit, il faut observer qu'est-ce qui se passe entre chaque processus. C'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, on va essayer de faire se rencontrer, hein, tous ces différents processus dans des endroits qu'on appelle des cercles qualité pour y fabriquer des indicateurs. Hein. Donc, les salariés viennent ici et fabriquent des indicateurs. Ces indicateurs seront replacés un petit peu partout sur la chaîne, mais pas que la chaîne. Alors, la chaîne est ici, hein, sur le processus de réalisation, évidemment. Donc, ici, on a le produit, les matières première, hop, ils vont y aller jusqu'à la vente, hein, évidemment. Et ici, on met des indicateurs un petit peu partout. Hein, les indicateurs-là, mais on n'en met pas que sur la chaîne. Hein. On en met aussi dans les processus de pilotage, donc dans la direction. Donc, bon, Deming, ils vont l'idée, hein, qu'il y ait une réelle coopération, hein, qu'il y ait une réelle communication entre les différents échelles de la hiérarchie. Lui, il dit plus de hiérarchie. Hein. Il dit, c'est la démocratie dans l'entreprise. C'est grâce aux indicateurs. Les gens viennent, parlent, et ils communiquent entre eux. Ils communiquent avec la direction. Là, que la direction communique avec les processus support. Et puis, il a inventé un truc de fou. Il a inventé la roue. Planifier, faire, agir, vérifier. C'est le
Alors là, c'est le temps. Et puis là, c'est les indicateurs. Il y a une cale. Jamais ça peut descendre, ok? Toujours ça progresse. Le temps passe. Et l'entreprise évolue, va vers plus d'innovation, plus de changement, de progrès, tout le temps. Le changement, le progrès, l'innovation grâce à des marketeurs, la démocratie, l'entreprise. Coopération généralisée partout, la société, l'innovation, le changement, toujours grâce aux salariés, mais au cadre, et bien la hiérarchie, mais évidemment, un grand travail. Changement. Innovation. Arrête.
Ouais, j'ai... Je t'ai jamais vu comme ça.
Ça doit être la blouse.
Ça transforme quelqu'un.
Ah, la blouse, hein. Ah, je me reconnaissais plus.
Lolo, toi aussi, Lolo.
Charlotte aussi.
Attends.
Vas-y.
Ça va mieux?
Puis j'arrive même pas à ouvrir. J'ai pas réussi non plus tout à l'heure. Alexia, faut qu'on leur dise la vérité.
C'est moi qui devais le dire.
Je sais.
Dis-leur la vérité.
Mesdames et messieurs, la démarche qualité ne sert qu'à une chose et une seule, augmenter la productivité des salariés, donc augmenter le profit.
Ben, qu'est-ce que tu fais?
Ben, je te montre. L'autre jour, j'arrive chez ma copine Anne, et alors, chez elle, elle travaille à la Genet, elle avait, donc chez Peugeot Citroën, elle avait un plan entier de l'atelier, par terre, chez elle. Chez toi, pourquoi t'as un plan entier de le week-end chez toi, dans ton appartement, qu'est-ce que tu fous? Donc elle conduit des Fenwick et elle organise les camions en fait, elle range les pièces dans les camions. Donc elle me dit, bah, chez PSA, il y a un super truc, c'est la boîte à idées. Alors la boîte à idées, tu fais une proposition, par exemple tu fais une proposition de rangement de camions, d'optimisation du rangement des camions, et là tu peux te faire des primes. Tu vois, il disait, bah, il y a un de mes collègues, il s'est fait 700 euros l'année dernière, quoi.
4000 balles ?
Ouais. Et j'ai fait, mais Anne, je lui ai dit, tu te rends compte que quand t'as une idée comme ça, c'est PSA qui sont fous plein les fouilles, pas 700 euros. Je lui ai dit, forcément, je lui ai dit, si t'optimises le rangement des camions, il y aura moins de camions. Donc forcément, il y aura moins de camionneurs. Forcément, il y aura moins de papiers administratifs pour gérer livraison, remplissage de camions, tout ça. Donc, il y aura moins d'agents administratifs. Donc, je lui dis, tu vois, quand tu fais un truc sur la chaîne, ça a une répercussion dans l'entreprise, tu comprends? J'ai pas compris que... Il y avait des... Un lien.
Elle vous a pas tout dit.
Alors, ce truc-là, je vais pas tout dire. Ce truc-là, la démarche qualité, c'est un truc qui est obligatoire depuis la loi 2002 qui vient réformer celle de 75 du Code de l'action sociale et des familles. Donc, la loi 2002, elle oblige toutes les structures sociales et médico-sociales à appliquer ce truc, mais tel quel. Donc les structures sociales et médico-sociales, ça va de la maison de retraite jusqu'au foyer de jeunes travailleurs, en passant par des structures jeunesse, d'accueil jeunesse, pour les structures, il y a de l'hébergement pour l'instant. Donc, tel quel, on leur demande d'appliquer ça. Donc sous deux formes, la première c'est une évaluation interne et la deuxième c'est une évaluation externe. L'évaluation externe c'est en fait tous les quatre à 7 ans, l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité, alors, petite parenthèse, je ne sais pas si vous connaissez ce truc, ça existe depuis 2003, ça embauche 26 personnes, c'est un budget de 3,3 millions d'euros par an. L'Agence nationale de la qualité de l'évaluation, c'est eux par exemple qui ont pondu le concept de bientraitance. C'est eux qui ont écrit et rédigé le manuel de bonnes pratiques professionnelles, le référentiel de bonnes pratiques professionnelles. Donc voilà, donc cette agence nomme des cabinets d'audit extérieurs qui viendront tous les 4 à 7 ans dans ces organismes pour vérifier la conformité normes ISO et puis la conformité financement public, accréditation. Voilà. Il y a une deuxième forme qui est celle de l'évaluation interne. Pardon. Donc l'évaluation interne, c'est exactement ça. Donc en fait, en gros, on demande aux salariés de venir faire des cercles qualité. C'est la même chose, sauf que ça ne s'appelle pas pareil. Enfin, on a vu tout à l'heure sur le langage, ils sont assez forts. Donc ils appellent ça groupe de travail, comité technique. Et puis on demande aux gens de venir déposer tout leur savoir-faire dans des grands référentiels. Comme ça. Et puis après, on leur demande de fabriquer les critères d'évaluation de ces savoir-faire-là qu'ils viennent de déposer. Puis après, on leur demande d'observer cette évaluation, en tout cas, comme ça, sur l'idée de l'évaluation continue, de sans cesse observer ces tâches qu'ils ont mises dans les grands référentiels. Voilà, c'est la même technique. Là, c'est super parce que les gens, ils s'auto-évaluent sans cesse, en fait. C'est eux-mêmes qui se sont fixés les critères d'évaluation. Là, il n'y a plus besoin de hiérarchie, quoi. Magique. Bon, bref.
Voilà, donc nous, on fait une hypothèse. Tu veux bien écrire ?
Oui.
Donc, en fait, on se dit, voilà, ce processus, il est là. Il est... On nous l'a imposé parce qu'on nous a vendu qu'en gros, il fallait justifier le financement public. Et nous, on pense qu'il y a un autre truc planqué là-dessous, qu'il y a un peu anguille. Et on pense justement qu'il y a que, voilà, c'est une espèce de processus dans ces techniques d'évaluation-là. Donc on pense qu'il y aura un premier temps qui sera un temps d'adhésion des salariés. Donc en gros, on dit aux gens, venez dans ces groupes de travail, venez parler de votre métier. On sait tous qu'on manque cruellement de lieux où échanger sur nos métiers, sur le sens de nos métiers, et on nous fait cette proposition de venir déposer ce savoir.
Et on fait adhérer à quelque chose de potentiel, fondamentalement désirable, la qualité, mettre l'usager au centre du service. Donc on se...
Au centre ? Ouais. Donc il y aura une phase d'adhésion. Il y aura pour nous une phase de dépossession. Donc en gros, par l'intermédiaire des référentiels, on vient démembrer les métiers en fait. On les transforme en petits bouts, en tâches mesurables. Voilà. Une phase de dépossession. Une phase de standardisation. Donc là, on retrouve Taylor tout à l'heure, Ford, on est exactement dans le même schéma. Une phase de rationalisation, donc là où on récupère du temps, on récupère de l'argent évidemment, puisqu'une fois qu'on a tranché tous ces métiers-là en petits bouts qui sont en tâches, on devient tous interchangeables. Ça veut dire qu'une fois qu'on a défini des process, tout le monde peut effectuer ces tâches-là évidemment. Donc il n'y a plus du tout de singularité dans la manière de faire ces métiers-là, on les rationalise. Et nous là on se dit, bah, du coup une fois que cette logique marchande-là est venue coloniser nos cerveaux, on a une autoroute pour la marchandisation des services publics. On a quelques exemples. Sur la rationalisation, par exemple, il y avait une collègue aide-soignante qui racontait, on ne l'a pas trop vu venir, mais un jour, on nous a dit, on nous a demandé de faire les toilettes avec des chronos dans les poches. On a fait, d'accord, donc on nous a bien vendu le truc en disant, voilà, on va savoir combien de temps vous passez, ou vraiment comment vous prenez soin des patients, et tout ça. Donc voilà, on a été faire nos machins, ça a duré un mois.
pour une période de référence comme ça. Puis à la fin, elle dit on était 10 aides-soignants, quoi. Ils ont viré 5 postes. Parce qu'ils ont évalué qu'un temps de toilette, ça durait 10 minutes. Quoi. Et elle dit mais le temps de l'hygiène, c'est un truc. C'est pas rationalisable, quoi. C'est du temps humain, quoi. Si on rationalise du temps humain, c'est du fascisme, quoi. Enfin, ça n'existe pas, c'est pas possible. Une toilette, ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer 5 minutes. Ça dépend ce qui se passe humainement. Mais c'est pas calculable ni anticipable.
Un exemple de la standardisation à l'hôpital psychiatrique de Rennes. Donc tout le monde maintenant doit passer par des sortes de protocoles. Ils appellent ça le Dieu protocole. Donc traçabilité du matériel, etc. Donc ils doivent prendre par exemple 2 fois par jour la température du frigo. C'est-à-dire un ensemble de procédures comme ça qu'ils doivent respecter. Et s'ils ne les respectent pas, ils n'ont pas l'accréditation. Parce qu'il y a des visiteurs qui passent pour vérifier qu'ils peuvent sortir le formulaire B312 et qu'ils ont fait ces procédures. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils ne sont pas avec les malades. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils perdent aussi le sens de leur travail. Et par exemple, ils ont remplacé ce qu'ils appellent un carnet de suivi des malades. Le carnet de suivi, c'était un endroit où chaque personnel soignant notait au fur et à mesure, tous les jours, ses observations, ses questions. Et les mecs nous racontent que c'est comme ça que se transmet le métier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait sa formation, en fait, on ne sait pas encore tout à fait ce que va être notre métier. C'est par le biais de ce carnet-là qu'on apprend vraiment et qu'on peut échanger avec ses collègues. Et c'est là qu'on apprend le plus gros de son métier. Ils ont supprimé ces carnets-là, ils les ont remplacés par des sortes de formulaires « fait, moyen, résultat ». Oui ou non. Donc si vous n'êtes pas susceptible de mettre en face d'un fait des moyens que vous utilisez et un résultat, vous ne notez plus ce que vous notiez avant. Donc on ne peut plus mettre les questions, on ne peut plus mettre les observations, on ne peut plus mettre ce qu'on a ressenti par rapport au malade, et disparaît ainsi tout ce qui fait le sens de ce métier, à savoir la clinique. C'est le cœur de ce métier-là. Et non seulement ça disparaît, mais en plus, à la place, il y a une sorte de monoculture. Donc on est vraiment dans la standardisation. Et on applique les mêmes normes qu'un bloc chirurgical à ce qui se passe dans l'hôpital. Par exemple, ils faisaient des ateliers de culinothérapie. Donc avec les gens qui sont à l'hôpital, c'est de faire de la cuisine. Donc maintenant, ils sont obligés de les déguiser, de les mettre en scaphandrier pour aller faire des cours de cuisine. Et quel sens ça a ? Ça, c'est totalement... C'est kafkaïen, quoi. Ça colle.
On a une collègue de la mission locale, qui nous a raconté qu'un jour, la démarche qualité est arrivée. Alors, souvent, ça arrive avec un logiciel. Donc, eux, ça est arrivé avec un logiciel. On a dit, bon, ben voilà, on a un nouveau logiciel, donc il va falloir qu'on définisse les process, tout ça, avec qu'on fasse un référentiel avec les différentes tâches pour pouvoir ensuite remplir le logiciel et faire de la saisie dessus. Voilà, elles ne se sont pas méfiées, enfin... Et elles ont commencé à aller expliquer de l'accueil téléphonique du jeune jusqu'au bilan en entreprise, ce qui se passait, toutes les étapes de leur métier. Donc elle dit, une fois que ce logiciel est arrivé à la mission locale, on s'est retrouvés à ne plus travailler ensemble, jamais, puisqu'on s'est retrouvés à remplir des statistiques en permanence. En fait, on a compris que l'objectif caché de ce truc, c'était pour justifier l'argent public sans cesse. Elles ont dit, donc avant, elle expliquait qu'avant, elle bossait beaucoup avec les structures extérieures, qu'elle suffisait des coups de main entre elles, qu'elles n'avaient pas des tâches très très déterminées et très cloisonnées. C'était, voilà, elle bossait beaucoup en coopération, elles allaient à la rencontre des partenaires extérieurs et tout ça, puis du jour au lendemain, ça a été terminé. Elle disait, pour traverser la rue, il nous fallait un formulaire en 40 exemplaires signé par les quatre chefs, donc on a arrêté de sortir, et puis on passait un temps dingue à remplir... des trucs sur internet, et puis elle dit, on a commencé à se comparer, quoi. Puisqu'on n'avait plus rien de singulier dans nos métiers. Voilà, on nous obligeait à faire ça, quoi. À regarder, c'est quoi ton portefeuille de jeune, t'en es où, toi, des statistiques que t'as rendues au Conseil Général, tu t'en sors bien, autrement. Donc, il y a eu des arrêts maladie, de la maltraitance. Ils disaient, bah, on se plantait des nids, on se trompe toujours des nids.
Et on fait l'hypothèse qu'un des moteurs de tout ça, c'est justement l'évaluation. La fameuse roue dont parlait tout à l'heure Anaïk.
on pense que l'évaluation, elle est au cœur de tous ces processus et que c'est elle qui entraîne un petit peu tous ces mécanismes-là. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, on en a eu une bonne il n'y a pas très très longtemps. Mais juste avant, il y en a parmi vous qui ont l'impression d'être évalués.
Allez,
levez la main ceux qui ont l'impression d'être évalués. La main, ouais, maintenant. On ne voit pas si bien, hein, mais...
Non, dans vos boulots.
Non, non, pas dans la salle, hein, au boulot.
Ouais.
Ah, y a des tas d'évalués là par là-bas. Oui. Ouais. Bon, il y a au moins les deux tiers de la salle qui sont évalués.
Dans les 40, il n'y a pas de.
Alors, on nous en a raconté une très bonne à l'AFPA, c'est l'évaluation à 360 degrés. Il y en a qui connaissent ? Ça devient subtil, hein, l'évaluation. Donc, a priori, l'évaluation, c'était jusqu'ici bah, par vos directeurs, par votre hiérarchie. Donc, l'évaluation à 360 degrés, c'est par la hiérarchie, par les pairs et par les subordonnés, voire les clients et les fournisseurs. Alors, ils n'ont pas encore imaginé l'évaluation à 413 degrés, mais j'ose pas imaginer. Et pire que ça, le contenu de l'évaluation est totalement qualitatif. Donc le mec qui nous a raconté ça, il bosse à l'AFPA, c'est une association de formation, et il raconte qu'il y a au moins 3 questions qui portent sur l'hygiène de vie de son chef. Ça craint, hein? Donc, l'évaluation à la prison?
Ah oui, tu veux me raconter ça? Ouais, c'est pas bon. Alors, nous, un jour, mon chef de service, il arrive et puis il dit, les filles, avec okay, moi et ma collègue qui travaillait à la formation professionnelle des détenus, donc moi sur l'action culturelle et sur la formation, et il dit super, il y a un truc excellent qui arrive, on l'aimait bien, il était sympa. Il dit un truc super qui arrive, un nouveau logiciel, là on va être en direct avec les magistrats. Donc en fait on remplit juste un truc assez simple, hein, juste on met le nombre de détenus, la nature de la peine, la condamnation, qu'est-ce qu'ils feront après, est-ce qu'ils sont, tout un tas de critères, tout ça, et il dit, et on va expliquer ce qu'on fait comme action, quoi. Tu vois, les magistrats, ils n'ont rien à taper habituellement, et là pour une fois ils vont s'intéresser un peu à l'action culturelle et à la formation professionnelle, quoi. Donc voilà, il suffira juste de rentrer les quelques trucs dedans. Mais tu te rends compte le temps que ça va prendre, ce machin, ou... Donc, nous, on considérait que 50% de notre temps de travail, c'était du temps humain, de discussion. Donc, on allait dans la détention, discuter avec les détenus, avec les surveillants, avec tous les travailleurs et tout ça. Et en gros, on a calculé avec ma collègue que les 50% de temps qu'on attribue à faire ça, ils iraient à la saisie informatique pour remplir ce putain de logiciel. On va refuser en masse, on a tenu bon. Syndicalement.
Moi, j'étais dans une toute petite association départementale d'éducation populaire. Un jour, le lundi, c'est réunion exceptionnelle, la déléguée départementale a décidé, nous annonce... que le conseil d'administration a besoin qu'on évalue notre pratique plus précisément. Je dis, ah bon, mais pourquoi, enfin, c'est quoi le problème, en fait? Oui, le conseil d'administration a demandé des comptes sur ce qu'on fait exactement. Je dis, mais attends, des comptes, on en rend régulièrement. Enfin, c'est, je veux dire, on en discute devant le conseil d'administration. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ben là, voilà, il s'agirait de remplir, de dire tous les jours exactement ce qu'on fait par heure. Non, je vous rassure, on était 4 hein, dans l'association. Donc je lui dis, mais attends, excuse-moi, mais on travaille dans les mêmes locaux, d'accord?
Donc quand je te vois le midi, je te raconte ce que j'ai fait le matin. Si jamais je suis à l'extérieur, je te raconte aussi le lendemain, d'accord ? Tous les mois, je te dis comment ça s'est passé tout le mois et tout ça. Donc c'est quoi qui manque exactement ? Et à cette époque-là, on n'avait pas encore fait la conférence sur management, mais quand même, j'avais déjà une intuition que c'était pas bon qu'on me demande de détailler mon emploi du temps et que derrière ça, il y avait forcément une paire de contrôles qui allait s'exercer sur nous. Et donc, j'ai réussi, je ne sais pas comment, à convaincre mes deux autres collègues, à trois contre une, on a obtenu de ne pas le faire. Et alors, c'est pas mal parce que on parlait de logiciels et de... Maintenant, c'est plus sophistiqué aussi. Il y a l'évaluation par vidéo. Alors, il y a des femmes de ménage, des gens de personnel d'entretien qui doivent être contrôlés en scannant des objets, etc. Mais là, c'était pas ça que je voulais vous raconter. C'est à Gérardmer, dans un restaurant. On était en train de déjeuner, là. Puis tout d'un coup, je vois une caméra qui nous vise là, sur notre table de restaurant, quoi. Alors, la serveuse vient, je lui dis, mais pourquoi il y a une caméra qui nous regarde pendant qu'on mange ? Et là, elle dit, ben, parce qu'il y a des voleurs. Ah, où ils sont ? Des voleurs, vous voulez dire, il y aurait beaucoup de vols dans ce restaurant ? Elle dit, oui, il y a beaucoup de vols dans le restaurant. Combien ? Eh bien, il y en a beaucoup. Ah oui, mais combien ? Beaucoup. Bon, au bout d'un moment, elle a dit, non, en fait, je sais pas vous dire, non, c'est pas un problème de vol. C'est le patron qui habite à Nice et qui nous surveille, qui voit si on fait bien notre boulot. Et puis elle s'en va. Puis un peu après, elle revient, puis elle fait « Mais il y a un angle mort !» En fait, c'est l'angle vivant. C'est notre plat de résistance. Parce qu'en fait, personne n'est dupe.
Le réel résiste. Ben ouais, évidemment, en fait. Personne n'applique ça. Par exemple, à la SNCF, ils ont fait la démarche qualité et ils ont arrêté la démarche qualité. Enfin, ils communiquent pas trop là-dessus. Hein. Ils ont arrêté parce que, en fait, les gens suivaient à la règle le protocole et arrêtaient de penser à leur métier. Avaient complètement laissé de côté le sens de leur travail. Donc, il y a eu des gros accidents mortels. Par exemple, on nous a relaté dans un incinérateur. Donc, il était l'heure de foutre le feu dans l'incinérateur. En fait, il y avait un collègue qui était en train de bosser dedans. Donc, le mec arrive, il fout le truc, puis il fait cramer son collègue parce que c'est l'heure et que voilà, c'est. Donc, ils ont arrêté ça. Donc, nous, on pense qu'en fait, ça se maintient aussi parce qu'on résiste. Parce que on refuse. Parce que on lutte contre ce truc. C'est inapplicable, forcément.
Donc, pour aborder le plat de résistance, on s'est inspiré d'un petit livre qui s'appelle 50 façons d'assassiner les limaces. Alors j'ouvre une parenthèse parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lutter contre les limaces. Mais comme en Bretagne il ne pleut pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de limaces. Et moi j'ai tout essayé. Alors j'ai essayé la bière, mais comme il ne pleut pas beaucoup, je l'ai dit, ça, hop, c'est viré. J'ai essayé les feuilles de houx. Alors, une première couronne de feuilles de houx, une deuxième couronne de feuilles de houx, une troisième couronne de feuilles de houx, et bien elle passe par-dessus. Je ne savais pas que la limace sautait. Alors, avant-hier soir, on m'a conseillé les petits tronçons de ronces. Enfin, si elles passaient par-dessus le houx, je ne vois pas comment elles vont pas. Où on a fait le lancer de limace à minuit, vous attendez qu'elle sorte, puis là, hop, chla, lancer de limace. Mais je ne sais pas, elles reviennent à la nage ou...
Mais du sel.
Ah, le sel. Ah oui, ça c'est un peu torture. Hein.
Ouais.
Alors on s'est dit que quelqu'un qui avait trouvé 50 façons d'assassiner les limaces, forcément il serait d'un grand intérêt pour lutter contre les managers. Quelqu'un qui résiste comme ça, forcément, il peut nous donner des cours. Alors, première étape, hein, c'est très très clair. Elle dit, avant toute chose, il faut bien connaître son ennemi. Ça, c'est la base de la résistance.
Alors, nous, on pense qu'une des armes principales du manager, c'est le langage. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, vous savez, l'histoire de, on pense la réalité avec les mots qu'on a à notre disposition et pas l'inverse. Bon, l'idée, c'est qu'on se fait voler des mots, on ne peut plus dire les choses. On ne peut plus dire patron, on est obligé de dire N+1, N+2. Donc, voilà, donc on pense qu'il faut lutter contre ça. Et on a un petit jeu qui s'appelle le Bullshit Bingo. Vous connaissez ça ? Bullshit Bingo, c'est un jeu qui a été inventé par des cadres chez EDF. Donc, c'est assez simple. Hein. Donc, vous fabriquez une grille de loto avec donc, tous les salariés qui assistent à la réunion avec le manager fabriquent une grille de loto avec tous les mots qu'ils détestent. Hein, vous voyez, donc, ils arrivent en réunion avec cette grille de loto. La réunion commence, le manager commence à parler, donc à dire les mots. Chacun coche. Il dit qu'il a sa grille de loto remplie, il se lève et il crie « Bingo !» On vous invite à le faire, ça marche bien, je crois que je pense. Ici, ils ne l'ont pas fait en réunion avec des élus communautaires, non ? On va leur demander à la soupe après.
Ils vont nous raconter, j'espère. Donc on a vu le langage, hein, parce que ça, pour le manager, ça semble quand même assez imparable. Et puis alors, on s'est dit quand même, son outil principal, c'est la démarche qualité. Alors, pour voir si vous avez bien compris ce qu'a expliqué Anaïk, on va essayer d'appliquer une... On va faire une parodie de démarche qualité, mais appliquée à la conférence gesticulée. C'est pour voir si vous avez bien compris.
Donc, alors, en gros, on vous propose des solutions de rationalisation du spectacle.
Pour optimiser un peu tout ça, quoi.
Est-ce que vous avez des idées ?
Ah ! Depuis le temps que... Oui,
ouais.
C'est vrai que ça fait un peu fouillis et puis ça prend de la place.
Là,
faut le transporter. Un dress code.
Un lumière. PowerPoint.
Un PowerPoint. Ouais.
Une vidéo. Une vidéo. Une vidéo. Conférence, ben oui. Un truc comme ça.
On a même plus besoin.
Conférence sur piste.
Oui.
Tu t'ennuies peut-être.
Et on peut aussi rationaliser votre espace aussi. Hein.
Vous pourriez monter sur les genoux les uns des autres. Comme ça, on pourrait faire deux conférences en même temps, elle là, moi là.
Faire une mezzanine.
Ouais.
Moins de déplacement.
J'ai l'impression qu'ils ont bien compris, en tout cas.
Oui, carrément.
Faudrait pas les pousser beaucoup. Hein.
On pourrait faire aussi on pourrait faire le ménage en vrai. On nous l'a dit, ça. C'est
facile.
Hein?
Éteindre le chauffage et vendre des blousons.
Ouais, multitâche quoi. Bon, apparemment vous avez bien compris. Alors on va passer au deuxième étape, les stratégies de résistance offensive à court terme.
Alors prendre au pied de la lettre. Par exemple. On vous dit qu'il faut instaurer la démocratie dans votre service, donc il va falloir créer des comités participatifs avec les usagers. Et ben, vous le faites en vrai. Vous dites, bah, d'accord, on va faire de la démocratie, okay, on va donner du pouvoir aux usagers. On a l'exemple d'un FGT là, où ils ont pris au pied de la lettre la démarche qualité. Vous savez, il y a tout un tas d'instances qu'on peut mettre en place participatives, et ils ont réussi à faire ça, à fabriquer ça.
Yes! Après, on a les stratégies maquisards. On a plusieurs variantes pour déstabiliser l'ennemi. La première,
c'est l'excès de zèle. Par exemple, on rend tous la même évaluation, en bloc. C'est ça ?
Non, l'excès de zèle, c'est l'hôpital psychiatrique. Ils ont des fiches. Pour remplir, ils doivent déclarer les événements indésirables. Et après, tout ça, c'est rentré. Donc, ils déclarent tous 7 fois plus d'événements indésirables, et c'est le chaos. Et puis, on a des variantes désobéissantes. Donc, désobéissantes.
Voilà, donc c'est ça, en fait. Rendre tous la même évaluation. Donc, vous allez tous en entretien d'évaluation annuel. Et vous, comme vous aurez de toute façon tous la même grille d'évaluation, avec les mêmes questions, vous faites exactement la même réponse. Tous.
Et puis vous avez l'autre variante, plus rejet. Donc, par exemple, toutes les travailleuses sociales du Conseil général de Seine-Saint-Denis se sont mises d'accord pour refuser de rendre toutes les statistiques. Actuellement, elles sont là-dessus, et je peux vous dire que la direction de l'action sociale, ça les énerve beaucoup. Et pas très loin de chez nous, il y a une directrice d'école qui, avec toute son équipe, a réussi à refuser de remplir le fichier bas élèves. Et comme elle est dans cette salle, je vous propose qu'on l'applaudisse. Bon, après, on a les variantes kamikazes.
Donc, on a une variante... on nous a raconté dans un pôle emploi au moment de la fusion entre ACEDIC et ANPE. Il y en a, ils ont réussi à mettre des virus dans les systèmes informatiques. Beau bordel.
Ça durera un peu. Alors, à Genève, ils nous ont proposé de séquestrer des managers. On trouve que c'est une super bonne idée. Et puis, on a un autre tuyau aussi. C'est quelqu'un qui nous a proposé une variante sabotage. En gros, il s'agit de couper les câbles au niveau des ministères.
Et c'est hyper simple.
Donc, on peut en parler après, peut-être au Quai Royal. Donc, ça, c'était les stratégies de résistance offensive à court terme. Mais on pense que le cœur de la résistance, c'est dans les stratégies à long terme. On pense que ce qu'on a de plus précieux, c'est le sens du travail. Et on pense qu'on doit se battre au nom de son métier. On doit déterminer, définir notre essentiel, dire nos limites, ce qui doit toujours échapper à la rationalisation. Il faut absolument qu'on dise jusqu'où on est prêt à aller. Actuellement, il y a des gens dont le métier est en train de changer fondamentalement. Il faut qu'on dise jusqu'où on ne doit pas aller. Ça, c'est hyper essentiel et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte aujourd'hui. Il faut qu'on se dise entre nous qu'est-ce qui fait que le matin, on va travailler par respect pour nous et par respect pour les gens. Les gens qui sont les usagers, qui sont les personnes qui sont accueillies par les travailleurs sociaux, des malades, des élèves. Au nom de tout cela, il faut qu'on se batte.
Et pour ça, il faut refaire collectif. Parce que c'est ça que bousille méthodiquement la démarche qualité, les nouvelles techniques de management participatif, c'est le collectif professionnel. Il y a Yves Clos qui dit, c'est un psychologue du travail, Yves Clos, il dit, il faut que son métier redevienne un objet d'une histoire à transmettre. Il faut se faire conteur de son métier. Pour ça, il faut réorganiser la dispute professionnelle. Donc, se reconnaître différent dans nos manières de faire nos métiers. C'est se réapproprier son métier et le transmettre. Sinon, qu'est-ce qu'on aura à transmettre à nos enfants? La rationalisation.
Alors, voilà. On vous propose maintenant, parce qu'on fait un cahier des résistances, un inventaire des résistances, on vous propose de, par trois, de vous interviewer à tout titre de comment vous avez réagi, résisté récemment, ou vous avez peut-être entendu parler de manières de résister au management, à l'évaluation, au problème de rationalisation du travail. Et donc, on voudrait collecter tout ça pour
transmettre à notre tour aussi quand on va faire cette conférence ailleurs. Donc, on va vous en parler déjà de qu'on a récupéré dans un syndicat de médecins à Paris, en Suisse, à Vannes.
Donc, trois par trois, là.
Parlez avec vos voisins. Vous allez voir,
c'est
du bien, c'est pas mal.
5 minutes chacun, tout
ça. Pas mal. Racontez-vous vos luttes, votre évaluation.
Écoute, Ouais, puis on va le faire en public en plus. Oui.
Bon, en fait, on nous fait un espèce de démarche qualité, parce que nous, on nous évalue, mais nos postures sont bien évaluées. Grosso modo, ça nous fait très peur, parce qu'on va nous réorganiser, mais ça va être n'importe quoi. Alors, tout qu'on fait, c'est que en clandestin, on se fait des réunions, et puis on va essayer de faire un groupe de travail pour se réfléchir à ce qu'on voudrait, pour pouvoir avoir des arguments pour dire pourquoi ça ne nous plaît pas. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, enfin, on se dit que ce qu'on fait, ça va servir à rien. Mais peut-être pour nous, ça va peut-être faire du bien déjà de mettre des limites à ce qu'on aimerait qu'il soit pour travailler qu'on a voulu. Et je veux dire, en amont de ça, c'est possible aussi parce que là où on travaille, on a une chef de service qu'on a l'impression qu'elle presse les gens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus qui sort, quoi. Elle les manipule. Et bon bah dans l'équipe, il y a ceux qui croient à ça, il y a ceux qui disent non, il y a tous ceux qui râlent, et ils n'ont pas tous pris conscience. Et on a réussi à faire une réunion où tous ceux qui s'en étaient pris plein la gueule avaient dit ce qu'on leur faisait. Et ces choses-là, mises juste à poser, les unes à côté des autres, on s'est rendu compte, mais c'est vraiment grave ce qu'on vit, quoi. Et tous, du coup, même ceux qui n'étaient pas atteints, ont pris conscience que ce qui arrivait, on ne devait pas le faire à des gens, quoi. Ça ne se faisait pas. Et de ça, on est une équipe, je pense que là, on est au 4-5e, on va dire, soudé, au moins à se réconforter si on se prend des coups dans la gueule, et au moins pas le seul, parce que leur force qu'ils ont, c'est diviser pour régner. Parce qu'ils vont donner un petit poste à machin, un petit truc, et après, il y en a qui vous jouent seul, et c'est là que ça foire tout.
Syndicat, c'est un syndicat ou non?
Non, parce que justement,
les
syndicats, ils
n'ont
pas envie.
D'accord. D'accord. Donc là-bas, non. Oui, pour l'instant, c'est super. Sacré résistant.
Oui, tout à l'heure, vous parliez de la résistance à bas élèves. Moi, je suis dans l'éducation nationale, donc récemment, on a eu les évaluations CM2. Plusieurs syndicats ont appelé à la résistance, mais aussi l'organisation de parents d'élèves, la FCPE. Donc, nous, sur l'école, en fait, un certain nombre d'enfants des classes de CM2 ont été malades à tour de rôle ou absents, on va dire, la semaine des évaluations. Et donc, on refuse autrement, en tant qu'enseignant, de transmettre les résultats des évaluations à...
Largement,
autrement, il y a aussi un collectif qui s'appelle le collectif des désobéisseurs, qui résiste complètement à ce dispositif des évaluations. Tant pour la transmission que tant pour la passation du côté élève que pour la transmission à l'administration.
amené, on a un tas de sources aussi qui montrent que ces questions sont en train de se poser vraiment dans plein de domaines différents. Actuellement, il y a des colloques, l'évaluation tue. Il y a pas mal de choses qui se... Ça vaut le coup de jeter un coup d'œil parce qu'il y a des collectifs qui s'emparent de cette question-là et qui ont l'intention de la soulever un peu partout.
Oui. Moi, j'avais un témoignage dans l'éducation nationale aussi, j'étais dans un lycée l'année dernière. Et donc, pour justifier un petit peu des suppressions de postes qui sont tombées au mois de février, on nous a aussi apporté beaucoup de chiffres et de l'histoire de rentabilité du lycée, de taux de réussite, avec pas mal de mépris. Et donc, il y a eu un mouvement de grève auquel on a participé, on a pu aussi se faire plaisir. Donc on a reçu une rectrice avec une haie de déshonneur à une cinquantaine, on s'est retourné sur son passage. Oui. C'est un peu plaisir. Et donc c'est passé au journal le soir même, régional, tout ça. Et puis on a aussi un peu plus tard vendu notre lycée sur le Bon Coin, l'œuvre de Carmel. Et on a mis évidemment les numéros de téléphone des têtes à la sociabilité au lectorat, donc ça n'a pas fait plaisir du tout.
À l'hôpital, devant des médecins et réanimateurs, ils nous ont dit la méthode de la marée. C'est une stratégie de résistance. C'est on demande très gentiment, mais tout le temps. Alors pour la Bretagne, ça va forcément marcher. Ils nous ont dit aussi la méthode, alors la variante du médecin, ça s'appelle, c'est la méthode patapon. Et en fait, on s'est aperçu que c'était la même que l'agricultrice du Cantal, qui elle appelait ça la méthode des demeurés. C'est comprends pas. Et vous laissez passer par-dessus. Il y en a un qui a dit c'est la stratégie de la moule. Ça pénétrera pas. Encore un autre, un ou deux autres exemples? Allez, il y en a des coins là, ça discutait pas mal là-bas là.
Ah là,
là-haut. Franck!
Vas-y.
Soit un coup de téléphone de quelqu'un qui nous fait, genre une administration, une hiérarchie, qui nous fait bien en vert, c'est juste après, ou là, je sais pas, quelqu'un qui est dans la MESAT, et son chef là, d'atelier l'enquiquine. Hein. Donc je lui dis, c'est systématiquement, après qu'il t'ait dit quelque chose, tu écris, ou tu fais écrire par quelqu'un ce qu'il vient te dire, tu mets en copie au chef de cette personne-là, ou au président de l'association, si c'est les AT, enfin tu es toujours en copie, en disant, vous venez de me dire ça, je voudrais savoir si j'ai bien compris, parce qu'on ne peut pas avoir bien compris. Mais, parce que par téléphone, voilà, etc. Et je l'ai fait encore à la direction du travail, mais pour vous dire, avec les AT, ça avait marché aussi, pour ce travailleur. Et au bout de 5 fois, c'était bon, je n'ai toujours pas de réponse, peut-être avez-vous votre internet qui est en panne. Ce qui est, c'est que le chef recevant cette copie-là, à un moment, j'ai une réponse, et la personne aussi, elle les a fait valoir ses droits, mais pour d'autres personnes, et systématiquement passer par l'écrit, en copie, surtout en copie, au chef ou à un représentant, enfin, quelque chose, peut-être que quelqu'un va voir cette personne, mais non, mais attends, 5 fois que ce soit du courrier, je ne comprends pas, etc. Et ça marche, hein. Donc le... Coller avec les
ondes,
enfin, tous ces
machins-là. Tu le vois maintenant, le sens de notre métier?
Le réel résiste.
Et la résistance, ça s'entretient. Et nous, on est des femmes d'entretien. Et pour résister longtemps, il faut se ménager.
Et nous, on est
des femmes de ménage. D'avoir vécu le cul. J'ai un trou, faut m'aider. Non, pas sur la commode. Le cul.
Heureux et sans esclandre.
D'avoir vécu obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre, le long des jours heureux, j'aurais vécu obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre, le long des jours heureux, pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien, pour aller loin, pas se casser le cul, savoir se fondre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Pas se casser le cul, savoir se fondre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Je suis désolée.